sobre, exemplaire, marquée par l'amour du prochain et au centre de laquelle il y a la grâce de Dieu qui prend toute sa place. C'est d'ailleurs cette grâce qui est la clé de lecture des exhortations qu'on trouve au chapitre 2. Et le chapitre 3 reprend et développe ce thème de la grâce en l'appliquant particulièrement cette fois aux relations extérieures, aux relations avec les non-croyants, mais aussi à ce qui doit être enseigné dans l'Église. Et je propose qu'on regarde cela en deux temps. D'abord la grâce au cœur des relations et ensuite la grâce au cœur de l'enseignement. La grâce au cœur des relations, donc. Au début du chapitre 3, Paul évoque les relations des chrétiens de Crète avec ceux qui sont en position d'autorité. Verset 1. Et puis au verset 2, on voit qu'il élargit à tous les contemporains, tous leurs prochains. Alors il commence par parler du rapport aux autorités civiles, sans doute parce que c'était une question sensible pour des chrétiens qui vivaient sous l'occupation d'une puissance impériale païenne, l'Empire romain. Au verset 1, l'apôtre Paul invite les chrétiens de Crète à être soumis aux princes, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne. Alors quand on lit ça, être soumis aux autorités, on a un peu du mal à l'entendre aujourd'hui. On a tout de suite envie d'affaiblir cela et de dire oui, d'accord, c'est vrai, mais seulement si le gouvernement est juste, intègre, s'il est respectable. Mais ce qui doit nous faire réfléchir, c'est que quand l'apôtre Paul écrit ce texte, ce n'est pas le gouvernement de la Finlande qui est en place. On est sous l'Empire romain, sous l'empereur Néron, un homme connu notamment pour avoir persécuté des chrétiens. Ce n'étaient pas des autorités particulièrement appréciables. Alors, comment est-ce que Paul peut demander aux chrétiens de se soumettre aux autorités? Et pour répondre à cette question, je voudrais souligner trois éléments. Le premier élément, c'est que Paul invite les chrétiens à obéir à leur gouvernement dans la mesure où ils peuvent le faire en bonne conscience. Dans la mesure où ils peuvent le faire en bonne conscience. On voit au verset 1 que Paul invite les chrétiens à être prêts à toute œuvre bonne. Et puis au verset 8, il les appelle à exceller dans les belles œuvres. Et donc il est clair que ce devoir de bien agir, de faire ce qui est bon en conscience devant Dieu, ça pose une limite à l'obéissance aux autorités. Je ne sais pas si certains ont pu lire un livre qui s'appelle « La mort est mon métier » de Robert Merle. Un très bon livre, assez difficile, assez dur. Robert Merle a adapté et légèrement romancé les mémoires du commandant du camp d'Auschwitz. Donc c'est un livre qui est assez glaçant. Et à la fin du livre, on assiste au célèbre procès de Nuremberg où les criminels nazis ont été jugés. Et cet homme est jugé et on lui demande « Mais comment est-ce possible que vous ayez mis en place un système d'extermination aussi terrifiant ? Comment est-ce possible que vous ayez fait cela en conscience ?» Et il répond systématiquement qu'il n'avait pas à se poser la question puisqu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. C'est sa réponse à tout. La soumission aux autorités dont parle l'apôtre Paul ici, ce n'est pas cela. Parce que le gouvernement n'est pas Dieu. Et la soumission au gouvernement est limitée à ce qui peut être fait en bonne conscience devant le Dieu qui se révèle dans la Bible. Lorsqu'on fait de cette soumission un principe absolu, ça veut dire qu'on divinise les autorités. Mais pour l'apôtre Paul, cependant, le chrétien doit montrer qu'il respecte le principe d'une autorité civile et que, autant qu'il le peut en conscience, il respecte cette autorité. Alors, je vais essayer de mettre un peu cette hypothèse à l'épreuve, de prendre un exemple, celui du régime nord-coréen, un régime totalitaire brutal, celui aussi qui persécute le plus durement les chrétiens au monde, d'après l'association Portes Ouvertes. Ils ont un classement de la persécution et vous voyez sur la carte, la Corée du Nord est le seul pays en noir où la persécution est qualifiée d'absolue. Et on pourrait se dire, mais comment est-ce possible respecter les autorités dans ce cadre-là? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et je pose cette question en reconnaissant qu'elle est difficile et je n'apporte pas une réponse facile. Mais il me semble que même en Corée du Nord, il y a par exemple un code de la route. Il y a des policiers qui sont chargés de le faire respecter. Il y a des impôts à payer pour financer des écoles, des hôpitaux, certainement aussi des moins bonnes choses, mais il y a quelques domaines où il est possible sans doute d'être un bon citoyen en bonne conscience, même si sans doute c'est... il n'y a pas beaucoup de domaines où c'est possible. Alors peut-être que quelqu'un dira, mais c'est complètement injuste, le gouvernement nord-coréen persécute les chrétiens, il leur veut activement du mal. Comment est-ce que l'apôtre Paul peut demander à des chrétiens dans de telles circonstances d'obéir à un tel gouvernement? Mais là encore, rappelons-nous que Paul écrit sous l'empereur Néron, qui n'était pas beaucoup mieux que les autorités de Corée du Nord. Et c'est là qu'intervient un deuxième élément de réponse dans le texte, pour comprendre cela. Paul invite les chrétiens à respecter leurs autorités, pas parce qu'elles le méritent, mais pour refléter et pour mettre en pratique la grâce qu'ils ont eux-mêmes reçue de Dieu. Paul rappelle aux chrétiens de Crète qu'ils sont pécheurs eux aussi, et qu'avant de connaître Jésus-Christ, ils étaient eux aussi livrés à l'emprise de leurs désirs mal orientés très souvent et contradictoires et de la futilité d'une vie sans Dieu. Et la logique aurait voulu que Dieu, dans sa perfection morale, se détourne définitivement de ces hommes rebelles que nous étions tous. Et pourtant, il a choisi de nous faire grâce. Paul demande donc aux chrétiens de Crète de refléter par leur comportement envers des hommes, pourtant injustes, la grâce qu'ils ont eux-mêmes reçue de façon imméritée de Dieu. Et en vivant ainsi, les chrétiens montrent qu'ils appartiennent désormais à Dieu et non plus au monde et au cercle vicieux de l'hostilité qui le caractérise. Alors je dis cela bien sûr à grande échelle en pensant aux autorités, mais on peut aussi réfléchir à d'autres contextes plus restreints, notre lieu de travail, notre rapport à nos supérieurs et à ce que cela peut impliquer pour cela. Ensuite, au verset 2, Paul élargit son propos au-delà des autorités à tous nos contemporains, tous ceux et celles qui nous entourent. Les chrétiens sont appelés à être conciliants, à faire toujours preuve de douceur envers tous les humains, verset 2. On vit peut-être plus que jamais aujourd'hui dans une ère de polémique. Bon, des polémiques, il y en a toujours eu hein, depuis que les hommes sont là, mais les médias de masse et Internet ont certainement même multiplié l'impact des conflits et des dissensions qui peuvent exister entre les hommes. Aujourd'hui, on peut se disputer avec quelqu'un à l'autre bout de la terre. Ce n'était pas le cas pendant la plupart de l'histoire. Et si nous sommes chrétiens, posons-nous la question. Est-ce que dans ma manière d'être, est-ce que dans ma vie quotidienne, y compris sur Internet, par exemple, est-ce que je suis un homme ou une femme de grâce, calme, généreux, conciliant? Ça ne veut pas dire abandonner ses convictions, mais être généreux, savoir rester calme. La troisième raison pour laquelle Dieu demande aux chrétiens d'agir avec grâce, c'est parce que si les chrétiens font preuve de grâce envers leurs contemporains, eh bien cela aura un effet bénéfique sur la société. Le monde a besoin de grâce parce qu'il en manque cruellement. Et l'apôtre Paul souligne cet aspect au verset 7 et 8, que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et utile aux humains. Il y a de nombreux exemples historiques de chrétiens qui ont eu un profond impact sur le monde par leur expérience et leur pratique de la grâce. Et le temps ne nous permet pas d'en citer. Mais plus largement, la pensée chrétienne, même si on l'oublie, la pensée chrétienne a joué un rôle décisif dans le développement de l'idée des droits de l'homme, par exemple, de la liberté de conscience, de la compassion, de l'aide à apporter aux plus faibles, d'un devoir d'aider les plus faibles. Aucun de ces concepts n'allait de soi dans la société païenne pré-chrétienne. Et aucun ne va de soi d'ailleurs si on estime que l'homme n'est que le produit d'un pur hasard et que la vie humaine n'a aucun sens a priori. Les chrétiens ne sont pas les seuls, bien sûr, à être capables de faire du bien. Je ne dis pas cela et l'apôtre Paul ne dit pas cela. Mais si nous sommes chrétiens, nous avons les meilleures raisons de pratiquer ce que Paul appelle les belles œuvres. Une juste façon de vivre marquée par la grâce, l'amour et la bonté. Or, pour pratiquer la grâce, pour la vivre au jour le jour dans notre relation avec Dieu et avec nos contemporains, nous avons besoin que cette grâce, elle nous soit régulièrement rappelée. Nous avons besoin qu'elle soit au centre de notre vie spirituelle et au centre aussi de notre vie d'église. Et c'est pour ça que pour l'apôtre Paul, la grâce de Dieu doit être au centre de l'enseignement chrétien. Et c'est notre deuxième point, la grâce au cœur de l'enseignement. Pourquoi Paul prend-il la peine de rappeler une fois de plus cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, alors qu'il écrit à un homme, Tite, qui connaissait bien cet évangile, cette bonne nouvelle, et qui lui-même était enseignant de la bonne nouvelle. En plus, Paul vient de la rappeler déjà au chapitre 2. Pourquoi y revenir encore ? Eh bien, il me semble que dans ce texte, nous avons ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire qu'en écrivant cette lettre, Paul fait ce dont il parle. Si vous allez à une école de mode, vous vous attendez à ce que les enseignants soient bien habillés, j'imagine. Ou si vous expliquez à quelqu'un comment écrire de façon claire et concise, vous n'allez pas lui expliquer en utilisant des phrases interminables et confuses. Un peu de cohérence. Eh bien, alors même que Paul écrit à Tite pour lui dire de rappeler et d'enseigner la grâce, il fait lui-même cela en donnant au verset 4 à 7 un beau résumé de ce qu'est la grâce de Dieu. Alors il faut reconnaître qu'il commence par une évaluation sombre de la nature humaine. Verset 3, l'homme sans Dieu est stupide. Alors il faut comprendre ce terme ici au sens spirituel, comme on le voit déjà dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, l'insensé qui vit sa vie loin de Dieu. Donc non pas au sens intellectuel, mais au sens spirituel. Stupide, rebelle, égaré, esclave de ses désirs et plaisirs divers et contradictoires. Alors, en lisant cela, on peut se demander si Paul n'exagère pas un peu quand même. Et on se dit que peut-être que Paul a en tête les excès du paganisme dans lequel vivaient les Crétois avant de se tourner vers Jésus-Christ. Mais ce qui est frappant, c'est que Paul utilise ici la première personne du pluriel. Il s'inclut dans cette description. Verset 3, nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, etc. Or, quelle était la vie de Paul avant sa conversion à Jésus-Christ ? Il ne vivait pas une vie de débauche, d'idolâtrie, pas du tout. C'était un juif strictement pratiquant qui était membre d'un parti rigoriste, le parti des pharisiens. Et pourtant, il s'inclut dans ce tableau, rebelle, égaré, esclave de ses désirs. Il semble donc que Paul donne ici une description de ce qu'est la réalité spirituelle profonde d'une vie sans Dieu. Un aperçu, sans doute limité, mais un aperçu de ce à quoi ressemble le mal aux yeux d'un Dieu saint. Paul ne dit pas ici que l'homme non-croyant est incapable de faire le bien. D'ailleurs, il présuppose que les non-croyants de Crète sont capables de discernement moral puisqu'il veut que les chrétiens aient un bon témoignage auprès d'eux et qu'ils ne se discréditent pas par de mauvais comportements. Mais pour Paul, l'homme sans Dieu est livré à l'emprise du mal sur ce monde. Il peut, dans un certain nombre de situations, faire ce qui est bon. Par contre, il ne peut pas se libérer du mal. Délivre-nous du mal, c'est dans la prière que Jésus a appris à ses disciples. C'est à notre Père que nous demandons cela, parce que c'est lui seul qui peut nous libérer du mal. Et Paul souligne que les chrétiens ne sont pas meilleurs. Si aujourd'hui ils connaissent une vie nouvelle, et on a vu dans le chapitre précédent que la vie nouvelle, elle s'apprend, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Mais s'ils connaissent une vie nouvelle, verset 5, ce n'est pas parce qu'ils auraient fait des œuvres de justice qu'il leur aurait donné cette vie nouvelle, mais c'est en vertu de la compassion de Dieu. Et dans les versets suivants, Paul souligne l'initiative de Dieu. C'est lui qui a décidé de sauver l'homme pécheur par, je cite, « le bain de la nouvelle naissance ». Une expression que l'apôtre Paul utilise qui semble mélanger deux images, celle de la nouvelle naissance que Jésus avait déjà, une image que Jésus avait déjà donnée, au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Donc il y a cette image de la nouvelle naissance, le bain de la nouvelle naissance, et aussi l'image d'un bain, d'un baptême sans doute. Mais ici c'est une image, il ne semble pas que Paul parle vraiment du baptême d'eau qui est pratiqué dans l'Église, mais d'une sorte de baptême dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire une façon de dire que la vie a été transformée par cet Esprit. Dieu est allé à la rencontre d'hommes et de femmes égarés loin de lui. Et par amour, par grâce, il nous a transformés de l'intérieur et lié à lui pour toujours. Nous étions orphelins de notre Créateur. Il est venu nous ramener à la maison pour toujours et nous donner une nouvelle vie et une nouvelle identité en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que certains ce soir attendent encore avant de rentrer à la maison auprès de celui qui les a créés ? L'occasion vous est donnée ce soir encore de revenir dans la maison du Père. L'apôtre Paul rappelle la bonne nouvelle parce qu'il veut montrer qu'elle seule a la puissance de transformer la vie de l'homme et la rendre agréable à Dieu. Le pasteur et auteur Tim Keller dit que la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ce n'est pas l'ABC de la vie chrétienne, c'est l'A à Z de la vie chrétienne. Et par là, il veut dire que c'est par la grâce qu'on est réconcilié avec Dieu, mais c'est par la grâce aussi qu'on apprend à vivre une vie qui lui plaît. Et on a déjà vu ça au chapitre précédent. Imaginez un couple qui adopte un enfant et qui, après quelque temps, lui dise « Si tu veux rester notre enfant, il va falloir que tu ranges ta chambre, que tu dises merci, s'il te plaît, que tu fasses la vaisselle de temps en temps. » Un parent qui aime son enfant lui apprend effectivement à bien se comporter, mais cet apprentissage se passe dans le cadre d'un amour inconditionnel. Et un enfant qui sait qu'il est aimé et qui aime en retour aura des motivations bien plus puissantes pour faire ce qui plaît à ses parents qu'un enfant qui n'est motivé que par la peur et l'amertume. Et Paul veut que les chrétiens de Crète comprennent à quel point Dieu les aime et soient émerveillés par ce que Dieu a fait pour eux. Il veut que leur relation avec Dieu soit alimentée par le rappel de cette grâce. Verset 8, « Cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. » Il y a tout là dans ces quelques paroles. Il y a le rappel de la grâce et ce rappel qu'il faut donner de façon certaine pour que les chrétiens puissent bien vivre et bien agir. Si on met de côté le message de la grâce, si ce n'est plus le fondement de ce qu'on enseigne, par exemple, dans l'Église, eh bien, on va forcément essayer d'alimenter la vie spirituelle par d'autres choses que la grâce. Alors, soit ça peut être le légalisme, c'est-à-dire un code de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas si on est chrétien, soit une sorte de foi thérapeutique. Dieu va m'aider à vivre la meilleure vie que je puisse vivre. Comment est-ce que Dieu va m'aider à gérer mon stress? Comment est-ce que Dieu va m'aider à trouver un emploi? Comment est-ce que Dieu va me donner des relations extraordinaires, et etc., etc. Et le problème, c'est que la foi, du coup, devient, soit dans le cas du légalisme, une façon de justifier notre supériorité aux autres, moi j'ai tous les marqueurs du bon chrétien, ou bien une obsession qui nous écrase de culpabilité, j'y arrive pas, ou bien la foi devient une sorte de thérapie, un petit truc qui nous accompagne dans la vie, qui rend la vie un peu plus sympa. Or, Dieu nous appelle ni à une thérapie, ni à un schéma religieux. Je ne dis pas que la thérapie ne puisse pas, par ailleurs, dans d'autres cadres, être légitime. Je ne parle pas de ça, là. Mais la relation avec Dieu, ce n'est pas une thérapie. Et ce n'est pas un schéma religieux. C'est une relation vivante avec lui. Et bien sûr, cette relation, effectivement, elle implique tous les aspects de notre vie, y compris des choses très pratiques. Et oui, Dieu peut nous aider à gérer notre stress. Absolument. Amen. Mais dans le cadre d'une relation vivante avec lui, où nous avons les yeux tournés vers Dieu, plutôt que de considérer Dieu comme une sorte de distributeur de bienfaits. Ce qui alimente la relation avec Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et c'est profondément libérateur de souligner ça. Parce que dans cette grâce, il y a à chaque instant, et une fois pour toutes, l'assurance de la présence et l'amour de Dieu dans toutes nos circonstances. Je peux avoir des doutes ou être tenté de m'éloigner, mais Jésus est mort à ma place sur la croix. Et rien n'enlèvera cela. Je peux passer par une période difficile dans ma vie professionnelle, peut-être, mais Jésus est ressuscité. Et rien n'enlèvera cela. Je peux passer par une période d'apathie spirituelle ou un peu de déprime, mais Dieu m'a donné son Saint-Esprit et ne me le retirera pas. Rien ni personne ne pourra enlever quoi que ce soit à l'amour de Dieu pour nous, ni aux actes accomplis par Dieu historiquement en notre faveur. Et c'est pour ça que la grâce doit être au centre de notre vie spirituelle, personnelle, mais aussi, et les deux sont liés, au centre de notre vie d'Église. Au verset 9 à 11, Paul termine le cœur de cette lettre par des mots sévères. Il commence par mettre en garde les chrétiens contre la tentation de passer beaucoup de temps à discuter de choses futiles, plutôt que de la grâce de Dieu. Alors, il semblerait que dans le contexte de cette lettre, que certains chrétiens, peut-être en particulier certains chrétiens d'origine juive, mais sans doute pas seulement, analysaient au crible les détails sur les généalogies de l'Ancien Testament. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, au début de la Genèse, au début des Chroniques, il y a des longues généalogies, et c'était une sorte de passion pour certains, et ils en tiraient une sorte de connaissance ésotérique. Et finalement, toute la foi de se rapporter à ça. Ce n'est pas un problème de réfléchir aux détails de la Bible. Toute la Bible est là pour notre instruction, elle est la parole de Dieu. Mais c'est un problème quand on se focalise tellement sur les arbres qu'on ne voit plus la forêt. Un exemple parmi d'autres qu'on pourrait donner aujourd'hui, parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui sont obsédés par les généalogies aujourd'hui, mais il y a d'autres choses. Par exemple, la passion insatiable de certains chrétiens pour l'interprétation des détails de l'Apocalypse. Dans quel ordre les événements se passeront ? Est-ce qu'il faut tous les jours suivre un peu les actualités et puis voir, alors là, on est dans quel verset, etc. En essayant de voir toujours des correspondances. C'est légitime de, non seulement de lire et de s'intéresser à l'Apocalypse, qui est un très beau et très important livre de la Bible, et puis c'est même légitime de réfléchir à certains détails, des questions délicates. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est bien la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est au centre de notre foi ? J'ai pris cet exemple, je pourrais en prendre plein d'autres. Et Paul termine par une mise en garde au verset 10. Il rappelle que les responsables d'église, comme Tite, doivent veiller à ce que l'église reste concentrée sur l'essentiel et pas sur des querelles qui divisent. Parce que souvent, ces débats sur des choses pas très importantes s'amènent à des divisions et à des querelles. C'est quasiment systématique. Et il peut arriver qu'une ou des personnes qui s'obstinent à créer des divisions doivent être averties plusieurs fois et puis voir dans certains cas rares et extrêmes lorsqu'il y a aucun regret, aucune repentance devant ces avertissements, parfois exclus jusqu'à ce qu'elles changent d'attitude. Paul parle là de choses assez drastiques et on voit bien qu'il y a un processus qui mène là et que le pardon est toujours offert. Et d'ailleurs, on ne reprendra pas ces personnes par la vengeance ou la calomnie. On les reprendra en leur rappelant que Dieu les aime, que son Fils est mort sur la croix pour subir la peine que méritent toutes nos fautes et que c'est la bonté et la grâce de Dieu qui doivent les ramener à bon port, les amener à changer d'attitude. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir dans votre relation avec Dieu, mais je sais où Dieu en est dans sa relation avec vous et avec moi. Il est déterminé à changer notre vie par sa grâce. Alors s'il le faut, répondons à nouveau, ou peut-être pour certains pour la première fois à l'appel de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Prions très brièvement. Merci Père pour le rappel de ta grâce qui change tout, qui nous apprend à vivre une vie nouvelle et dans laquelle nous sommes appelés à puiser jour après jour pour notre vie devant toi. Au nom de Jésus. Amen.